Alors tout d'abord, merci à tous d'être aussi nombreux pour cette première table ronde de la matinée. J'espère que vous allez y prendre autant de plaisir que moi, je vais prendre de plaisir à discuter avec ces invités qui sont tous aussi remarquables les uns que les autres. Je vais vous les présenter brièvement au cas où vous ne les connaîtriez pas. Donc tout d'abord, Roland Lehoucq, là vous ne pouvez pas ne pas le connaître, c'est le président des Utopiales. C'est aussi un astrophysicien spécialiste de cosmologie. Et puis par ailleurs, il a écrit avec Claude Ekel, que je présenterai un petit peu plus tard, un ouvrage qui s'appelle Mission Caladan, c'est le matin, et qui est en plein dans notre thématique. Donc oui, on va avoir plein de choses à discuter ensemble. Roland est également quelqu'un qui écrit tous les mois pour Bifrost. Tous les 3 mois, pardon. Ah, on aimerait que ce soit plus souvent, alors. Tous les 3 mois pour Bifrost, un article qui associe science et science-fiction et qui interroge la plausibilité d'un certain nombre d'événements qui se passent dans la science-fiction. Donc, autant dire qu'on aura des choses assez intéressantes à discuter sur la terraformation, la colonisation d'autres planètes, voire de notre planète. Et ça me permet de faire une petite transition sur Peter Watts, qui est un auteur de science-fiction très renommé, qui nous a proposé des ouvrages extraordinaires, nous montrant les fonds sous-marins, les abîmes, d'une autre façon. Et notre titre, c'est Un autre monde vert, mais avec Peter Watts, nous avons un autre monde bleu, voire noir, quand on voit les profondeurs auxquelles on descend. Et donc, Peter, qui est océanologue de formation, nous permettra d'échanger sur la colonisation ailleurs, mais peut-être aussi ici, sur Terre. Claude Ekel, c'est difficile de le présenter en quelques mots. Il a écrit des ouvrages extrêmement variés. Je retiendrai juste par rapport à la thématique d'aujourd'hui, Mission Caladan, bien sûr, écrit avec Roland. Et puis surtout la saison de la colère qui nous parle de changement climatique et de réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on laisse tout le monde sur place ou pourquoi pas les envoyer ailleurs? Claude qui nous fait à la fois de la science-fiction qui nous emmène très loin dans le futur ou qui reste assez proche de nous avec son dernier ouvrage. Alors, son dernier ouvrage est un ouvrage jeunesse, mais je pense à son ouvrage d'avant, qui porte sur le monde juste après nous, une vision politique, une vision un peu polémique, que je vous inviterai à aller voir très vite après à la librairie. Et puis enfin, Patrick Michel, qui est un planétologue qui nous vient de Nice. Je suis de Nice aussi, alors forcément. Et qui est spécialiste des météorites et des astéroïdes, excusez-moi. Alors voilà, tout de suite, les bêtises, astéroïdes, météorites. Ben, ce sera l'occasion également de faire la distinction et de nous parler de ce qu'on y trouve dans ces bêtes-là et dans quelle mesure on pourrait les exploiter. Alors, colonisation, terraformation, j'ai envie de dire qu'on a au moins trois images, trois visions possibles sur lesquelles je vais juste vous laisser commencer à discuter. C'est forcément une aventure humaine, parce que coloniser une autre planète ou un astéroïde, c'est forcément un monde complètement nouveau. C'est une aventure forcément technique, parce qu'on ne fait pas ça sans un minimum de maîtrise technologique, d'autant que là, on pense tout de suite à un problème majeur qui est le problème de l'atmosphère, comment on fait pour respirer, comment on fait pour survivre dans un lieu clos. Et puis, c'est une aventure économique aussi, possiblement, puisque si on part, les motivations peuvent être diverses. Si on construit un certain nombre d'équipements pour aller sous l'eau ou dans l'espace, c'est souvent pas uniquement pour le défi. Donc, aventure économique, aventure technique, aventure humaine, qui veut se lancer sur ces questions, qui a envie de choisir une direction?
Allez, on y va.
Allez.
Oui, effectivement. Alors, essayer d'aller au-delà de la Terre pour coloniser, c'est une aventure humaine, économique et aussi politique. parce qu'en fait, on a commencé à vouloir explorer le système solaire en allant vers la Lune. Les Américains s'y sont lancés ainsi que les Russes, mais il faut savoir que c'était dans un contexte de guerre froide où l'un voulait montrer sa domination par rapport à l'autre. Ça engrange des budgets tellement énormes, en fait, qu'il faut une motivation au-delà de celle scientifique pour aller au-delà. Donc, soit il y aura une motivation politique, c'est-à-dire, mettons, les Chinois vont envoyer un homme sur la Lune et peut-être après sur Mars, et du coup, il faudra que les autres nations montrent qu'elles sont aussi compétentes, ou alors il faudra un enjeu peut-être environnemental, pour le coup, c'est-à-dire si on s'aperçoit que sur Terre, l'être humain ne peut plus y vivre, et de toute façon, dans 4 milliards et demi d'années, si un astéroïde ne tombe pas dessus avant, on sera soumis au problème de la fin du Soleil, il faudra aller plus loin. Mais ce sont des problèmes qui sont déjà politiques, économiques, et puis aussi techniques, parce qu'effectivement, aller au-delà de la Terre, c'est sortir du champ magnétique terrestre qui nous protège des particules les plus nocives. Et ça, c'est très dur. C'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas aller sur Mars, parce que ça prend plusieurs années. Et s'il y a une éruption solaire, on n'y survivra pas. Ou alors, il faudrait vraiment avoir un vaisseau qui est protégé. Et puis, le problème psychologique qui vient aussi se mettre là-dedans, parce qu'on n'a encore jamais testé la capacité d'un équipage de rester pendant des années complètement délié de la Terre, c'est-à-dire sur une trajectoire, cette fois-ci, interplanétaire et non pas liée à la Terre, hein, autour de la Terre. Et ça, on sait que ça peut provoquer des problèmes psychologiques. Je racontais hier dans une autre table ronde que Buzz Aldrin, avec qui j'ai parlé de ça, qui est allé sur la Lune, me disait qu'à l'époque, la chose qu'ils n'avaient pas anticipée, alors qu'ils étaient très préparés par l'aventure lunaire, parce qu'ils ont pris les équipages les plus équilibrés psychologiquement, il ne fallait pas qu'il y en ait un qui pète un câble en y arrivant. Eh bien, ce qu'ils n'avaient pas envisagé, c'est l'impression que ça fait de voir la Terre en étant sur une autre surface. Et là encore, sur la Lune, on voit une Terre visible, on voit les continents, etc. Alors que si on va sur Mars, on verra un tout petit point bleu. Et quelle sera l'impression qu'aura l'être humain face à ça? Donc il y aura aussi ces défis-là à produire. Et je n'ai pas encore parlé des astéroïdes, mais on y reviendra.
Alors là, ça me donne l'occasion de donner la parole à Peter, évidemment, parce que c'est... Oui, parce que l'aspect humain, l'aspect psychologique d'une entrée dans un monde autre, ça c'est quelque chose qui est très présent dans votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Moi, je pense par exemple à Starfish où on a des êtres assez asociaux, mais qu'on a choisi pour ça justement pour pouvoir être adapté aux profondeurs.
Well, I suppose the definition of the term asocial really depends on the environment you're trying to fit into. They were actually pretty well adapted for the environment in which they found themselves. And I would argue that that's probably sort of the general principle you're going to have to take with you when you get off of this planet and onto another one, whether you're hollowing out an asteroid or actually terraforming another planetary body. These are pretty big honking engineering projects. There are a number of ways that you know one could actually terraform for example, the atmosphere of an anoxic environment. You could either use some kind of engineered blue-green algae, some kind of cyanophyte. You could, if you wanted to go faster, come up with some kind of a nanotech type solution that would perhaps break down silicon dioxide and release the oxygen from that. That would be faster, but it would also require something that would have to replicate, so you'd probably be talking some kind of post-biological life form. And in any case, you're talking decades to centuries to getting a project of this sort off the ground. It would be perhaps a more tractable problem to change ourselves. Maybe terraforming is doing things ass backwards. Maybe what we really need to do is anthroform. Certainly we are on the cusp of being able to make all sorts of changes to ourselves, adapting ourselves to a variety of environments rather than forcing the environments to adapt to us. Whether we do that or not, I guess this comes back to the psychological aspect that's been mentioned already. We have a brainstem. And the brainstem isn't very smart, but it's very fast and it's very powerful. And I think we tend to use most of our upper brains to basically come up with back rationalizations and complicated excuses for doing what the brainstem wants us to do anyway. And I think one of the things the brainstem wants to do is keep living. And the brainstem may be too dumb to recognize the difference between changing into something else and dying. I think that may account for a lot of the sort of the dad burnin' Murtha, that just ain't natural reaction that people get to a lot of, people are remarkably intolerant to fairly minor variations in even lifestyle amongst our species. If you want to turn yourself into a super intelligent ambulatory slime mold to survive in the upper atmosphere of Venus, there are going to be a lot of people who recoil at that for one reason or another. And we may actually have the technology to modify the body to the point where we can survive in alien planets sooner than we have the, I hesitate to say political, because political is certainly a manifestation, but it's really a more of a gut level human brainstem aversion to change. I think that may put brakes on it. But if we are looking to get off the planet fast and get into some other place fast, which we may have to do given the way things are going on in this world, I think it might be worth looking at changing ourselves rather than trying to force the rest of the universe to change to suit us.
Quelqu'un veut rebondir?
Oui, effectivement, ce que disait Peter sur le fait que on peut soit changer son environnement, soit se changer soi-même. Pour l'instant, on a changé notre environnement sur Terre, on le fait. D'ailleurs, on le fait un peu trop, peut-être, au risque de déterraformer peut-être la Terre et de se poser la question de savoir si peut-être il faudrait aller dans l'espace pour avoir un autre endroit plus confortable, ou en tout cas se reconstruire un endroit plus confortable. On a quand même l'impression que ce serait plus simple de ne pas détruire l'endroit où nous sommes déjà. Et effectivement, on aura probablement les moyens de se transformer nous-mêmes génétiquement ou mécaniquement, biomécaniquement, pour survivre en milieu hostile en dehors de la Terre, avant d'être capable d'avoir les moyens et d'avoir le temps surtout de transformer une planète, par exemple Mars, pour la rendre habitable pour des humains tels que nous sommes maintenant. Donc on peut imaginer évidemment la conquête ou l'expansion humaine en dehors de l'espace, en dehors de la Terre, en préservant la Terre qui sera de toute façon une base arrière indispensable, parce que si la Terre ne fonctionne pas, on ne voit pas trop comment on pourrait transporter, je ne parle même pas de 9 milliards d'humains, même 1 million d'humains, même 10 000 humains, et les mettre dans le... Pour l'instant, on ne sait même pas faire plus que 5 ou 6 humains qui sont dans la Station Spatiale Internationale. Donc les mettre en dehors de la biosphère terrestre pour qu'ils puissent éventuellement servir de point d'accroche ou de point de départ pour une expansion ultérieure. Donc garder la Terre comme point de départ, la garder fonctionnelle, et puis ensuite exploiter peut-être, là on en reviendra peut-être avec Patrick tout à l'heure, exploiter les richesses du système solaire en dehors de la Terre, les moyens, les minerais, les matières premières du système solaire, plutôt que seulement de la Terre, alors peut-être par les astéroïdes, et puis ensuite peut-être transformer les humains, les transformer intellectuellement, socialement, enfin qu'ils soient capables, qu'ils s'adaptent à ces conditions d'espace ou de colonies extrêmement hostiles, qui sont vraiment très différentes de la Terre et beaucoup plus hostiles que la surface de la Terre, en transformant les humains aussi physiquement et évidemment par la technique, d'avoir un environnement intermédiaire. C'est-à-dire on pourrait, plutôt que de, par exemple, terraformer Mars complètement pour la rendre similaire aux conditions terrestres, la transformer suffisamment pour que des humains modifiés puissent habiter à la surface de Mars.
On parle beaucoup de, on a parlé de technique. Hein. Quand la NASA a décidé d'aller dans l'espace, il y a eu des milliards qui ont été mis sur la table. On peut à peu près estimer à une centaine de milliards l'argent nécessaire pour lancer, pour créer une nouvelle industrie et se lancer vers dans un nouveau défi technologique, sachant que souvent c'est payant. Hein. Le CERN, si on parle de choses qui sont plus proches de nous, c'était pas 100 milliards, c'était une dizaine de milliards, mais les répercussions, ça a été par exemple Internet, hein, pour le grand public ou l'électronique rapide. Si quelqu'un était capable de mettre 100 milliards sur la table pour lancer une industrie et lancer un nouveau projet un peu fou qui permettrait de relancer la locomotive économique, vous, en tant qu'auteur ou en tant que scientifique, vous parieriez pourquoi? Plutôt terraformer Mars, plutôt aller sur un astéroïde, plutôt aller au fond des océans. Qu'est-ce qui vous semblerait le... Qu'est-ce qui vous branche le plus, j'ai envie de dire?
Je crois que la première logique là-dedans, bon, il y a deux idées qui s'opposent, c'est le temps du projet, hein, qui peut se compter en siècles, comme l'avait dit Peter Watts, et donc le retour sur investissement. S'il y a des gens qui mettent de l'argent sur la table, ils s'attendent à en faire des profits tôt ou tard. Enfin, plutôt tôt que tard. Et c'est là où tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a certaines échelles de temps qui ne sont pas vraiment compatibles. Donc je pense qu'on procède toujours par étapes et par escaliers. La première étape, ça sera celle de capturer un astéroïde afin de pouvoir l'exploiter au mieux. Mais j'ai bien l'impression aussi que là, je ne sais pas comment pourrait fonctionner une course de l'espace de ce type, puisque le premier à mettre la main sur un astéroïde aurait déjà du minerai pour 1000 ans. Et le deuxième serait obligatoirement perdant, le deuxième qui attrape un astéroïde, qui serait peut-être forcément plus loin, moins facilement exploitable. Et quel intérêt à partir du moment où il y a déjà quelqu'un qui a le marché pour lui tout seul? Il a le monopole.
Oui, alors, en fait, il y a un cas concret qui s'est passé. C'est la NASA qui a décidé, donc Obama, le président Obama a parlé au Congrès et a dit quelle est la prochaine étape de l'exploration humaine. On a fait la Lune. On peut s'interroger, retourner sur la Lune, ce qu'avait proposé George Bush. Mais comme il avait aussi proposé l'Irak et que ça n'avait pas marché, on s'est dit on va peut-être changer.
Puis la Lune, on est déjà allé, c'est pas très fou.
Voilà,
ça
donc c'est pas très sexy. Donc il fallait un truc un peu plus sexy. Alors aller sur Mars, c'est très coûteux et pour l'instant, c'est tellement. Ça paraît un peu impossible. Il y a tellement d'enjeux technologiques sur le long terme que pour aller plus vite, effectivement, il avait proposé comme premier voyage interplanétaire un astéroïde. Parce qu'en fait, il y a des astéroïdes qui circulent autour de nous, dont les trajectoires sont, entre guillemets, accessibles pour des vols humains, pour des vols de l'ordre de 90 à 180 jours, qui est la durée qu'on pense être encore raisonnable en termes de sécurité, etc., par rapport aux radiations pour un être humain. Donc il avait proposé ça. Et l'année dernière, la deputy administrator de la NASA est venue avec un projet d'aller capturer un astéroïde petit, et là, sur des échelles de temps très courtes, c'est-à-dire un premier lancement en 2017 pour pouvoir capturer un astéroïde d'une dizaine de mètres, 7 mètres, le ramener sur la trajectoire de la Lune et y aller ensuite envoyer un être humain, enfin des êtres humains, pour pouvoir l'étudier, éventuellement ramener un échantillon, etc. Alors, le projet n'a pas été budgété. Et puis, l'étude est en cours, donc ça risque de se faire, sauf que probablement le Congrès ne va pas le voter l'année prochaine. Parce que, effectivement, le problème, c'est que il faut, pour mettre 100 milliards de dollars actuellement sur un projet, enfin, encore qu'il l'estime à moins, mais ça monterait à ça, en tout, il faut un objectif, comme je le disais tout à l'heure, quand même politique, parce que scientifiquement, ça ne tient pas. Même nous, les scientifiques, on dira, mais non, on peut faire de la science avec des robots, et avec le coût d'une mission humaine, on fait 100 à 1000 missions robotiques. Et donc, au final, on apprendra beaucoup plus qu'avec un vol humain. Donc, du coup, les États sont soumis à ce problème. C'est que, sur des bases scientifiques, rien ne justifie le coût d'un vol humain par rapport à des coûts robotiques. Et sur des bases politiques, ça reste quand même dur à vendre parce qu'il n'y a plus ce risque de l'ennemi qui va nous attaquer, qui était l'argument qui avait été proposé à Kennedy pour aller sur la Lune. Alors, en plus, après, les problèmes technologiques sont énormes puisqu'en fait, les astéroïdes, c'est des objets qui sont tout petits. Donc ça veut dire que leur attraction est très très faible. Donc quand moi je vous parle et que je saute en m'excitant en vous parlant, je retombe sur Terre. Sur un astéroïde, je saute, je ne retombe pas parce qu'il est tout petit et donc la vitesse qu'il faut pour que je m'en échappe est infime. Et donc ça cause d'énormes problèmes parce que Bruce Willis dans Armageddon qui y va avec son marteau piqueur et qui tape dedans, eh ben, il fait ça sur un astéroïde, il gicle, il ne retombe pas. Donc évoluer sur un astéroïde, c'est extrêmement compliqué. Plus il est petit, plus c'est compliqué. Alors on veut envoyer des êtres humains, on veut aller essayer de creuser pour en avoir des ressources, mais comment est-ce qu'ils vont creuser? Parce qu'en absence de gravité, on appelle ça en microgravité, les échelles de temps de tous les processus sont beaucoup plus lents. Et en plus, le simple fait de toucher, l'environnement est extrêmement sensible. Il faut d'abord s'accrocher, mais on s'accroche à quoi? Parce que les astéroïdes, malheureusement, on a très peu de connaissances depuis le sol. Donc quand on a découvert un astéroïde depuis le sol et qu'on y va, on ne sait pas si ça sera du sable, de la roche dure, si ça sera très résistant ou non. Alors il faudra quoi? Une énorme caisse à outils pour savoir comment l'astronaute va pouvoir s'accrocher. En plus, ils tournent très vite sur eux-mêmes, certains en moins d'une minute. Donc vous partez dessus, vous giclez immédiatement, parce qu'avec la période de rotation, vous partez très vite. Donc c'est des problèmes extrêmement compliqués qui sont parfois pas mis en évidence. Et enfin, même la composition... On parle de... Alors, j'avais entendu qu'on allait résoudre tout le platinium qu'on n'a pas sur Terre, etc. Mais en fait, on sait très peu de choses sur les astéroïdes. Leur composition, on ne la connaît pas. On a les météorites sur Terre qui sont filtrées par l'atmosphère, donc elles ne sont pas nécessairement représentatives de tout ce qu'il y a dans l'espace, même si elles sont une richesse d'informations. Elles nous ont permis de dater le système solaire à 4,5 milliards d'années, par exemple. Mais on sait très peu de choses sur la quantité. On va ramener des échantillons d'astéroïdes avec deux missions aux Osiris-Rex de la NASA, Hayabusa 2 de l'Agence spatiale japonaise, et on espère Marco Polo Air de l'Agence spatiale européenne, mais ça sera 100 grammes. Donc, ça sera extrêmement intéressant scientifiquement, mais industriellement, à savoir si, à partir de ça, on peut extrapoler ce qu'on aura sur l'ensemble de l'objet, c'est quand même compliqué. Donc, quelle est la quantité de platine? Quelle est la quantité des éléments qui peuvent être industrialisés? Comment est-ce qu'on va les prendre? Est-ce que le coût pour les prendre... Un exemple, les missions dont je vous parle, pour 100 grammes, la mission coûte 800 millions de dollars. Donc ça fait cher le gramme quand même pour l'industrialiser. Scientifiquement, ça fait peu cher. Mais pour l'industrialiser, ça fait quand même peu cher le gramme. Donc même ces industries qui s'y intéressent, c'est très bien, elles ont encore une route à faire avant d'en faire un profit.
Alors là, il y a plein de choses que tu viens de nous dire. En particulier, tu nous présentes d'énormes difficultés pour les astéroïdes. Tu nous disais que sur la NASA, effectivement, on avait une évaluation des coûts. Et ce qui m'intrigue, c'est que bon, la NASA est une vieille institution. Et souvent, ce qu'on sait, c'est que quand on vieillit, on a tendance à réutiliser des technologies qu'on connaît, ce qu'on connaît, ce dont on a l'habitude. Est-ce que l'idée d'ouvrir le marché, de proposer des défis à pas seulement à la NASA, mais à un public plus large, industriel, en disant voilà, on veut aller là. Par exemple, si les astéroïdes, ça saute dans tous les sens quand on essaye de se mettre dessus. Mars, ça saute, on saute pas, on reste accroché à Mars si on va sur Mars. Si on se donnait comme défi, par exemple, une fusée qui nous permette d'atteindre Mars, tu disais que le problème c'était la durée du trajet. Mais si au lieu d'avoir une fusée qui, une fois qu'on la lance, continue sur sa lancée, si on imaginait une fusée qui continue à accélérer typiquement. Il y a plein d'auteurs de science-fiction qui ont joué avec ça, en particulier Heinlein, par exemple. On pourrait aller très vite sur Mars, finalement, et la durée de trajet ne serait pas un problème.
C'est la clé. Il faut que les agences spatiales se posent de nouveaux challenges. Le malheur, c'est que pour l'instant, quand on fait des propositions de missions, y compris dans l'exploration humaine, on ne dit surtout pas d'innovation. Réutiliser ce qu'on a déjà fait. Et malheureusement, on manque, à cause de la crise économique aussi, hein, ou alors à cause du management que l'on met peut-être au-dessus de ces agences, on manque de personnes qui, justement, soumettent au défi les ingénieurs et les scientifiques pour proposer des nouvelles solutions, parce que c'est trop risqué, ça coûte trop cher, et ça, mais ça sera nécessairement, on sera obligé de faire un saut technologique pour évidemment répondre à ces défis-là, oui. Ça c'est sûr.
Oui, parce que pour aller... Pour aller vers Mars rapidement, il faut être capable de se propulser longtemps, pas juste vous vous mettez en orbite autour de la Terre, tout va bien, vous appuyez, hop, vous partez, vous propulsez, hop, vous partez vers Mars, et puis ensuite vous êtes en vol balistique, comme on dit, c'est-à-dire vous avez votre impulsion initiale, vous évoluez sous l'influence de la gravité de la Terre, de Mars, de toutes les planètes du système solaire, vous avez bien calculé votre trajectoire, vous arrivez sur Mars, vous freinez un petit peu, hop, et vous mettez en orbite autour de Mars. Ça prend 6 mois dans les conditions les plus économiques du point de vue de l'énergie, parce qu'on n'en dispose pas de beaucoup. Ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir une source d'énergie concentrée, de petite taille donc, et importante dans l'espace, et qui ne soit pas le Soleil. Alors voilà, quand on dit ça, il faut être capable de mettre un réacteur nucléaire dans l'espace. On sait peut-être faire ça, ça a déjà été envisagé, il y a déjà eu des réflexions sur ce sujet-là. Après, il faut dire, alors, on vous met un réacteur nucléaire dans l'espace? Et on voit si les gens sont d'accord ou pas. Et ça change tout. Vous voyez que ça, c'est un problème d'acceptabilité sociale. Quand on voit la course à la Lune, elle a été acceptée, les 100 milliards ont été acceptés socialement, parce qu'il y avait cette sphère politique, finalement. Quand on parle de politique, on parle de est-ce que les gens sont d'accord? Parce que si les politiques étaient d'accord pour montrer leurs muscles, si le public dit, écoutez, vous moquez de nous, 100 milliards pour vos muscles, on n'en a rien à faire. Nous, on veut régler des problèmes de la Terre, des problèmes d'ici qui nous concernent. 100 milliards mis dans plein de choses qui concerneraient les humains directement maintenant. Ceux qui souffrent sur Terre, ça serait pratique. Donc là, c'est un problème d'acceptabilité sociale, financière, et de mettre aussi de cette technologie qui passe par une source d'énergie concentrée, indépendante du soleil. Parce que quand vous vous éloignez du soleil, le flux de rayonnement solaire diminue, d'autant plus qu'on est loin, deux fois plus loin, quatre fois moins de flux solaire. Quand vous allez sur Mars, vous avez en gros trois fois moins de rayonnement solaire, de flux solaire, de watts par mètre carré lumineux que vous en avez au niveau de la Terre. Et du coup, tout miser sur des panneaux solaires, par exemple, qui seraient écologiques, gentils, etc., ben, ce n'est pas suffisant. Il vous faut, pour vous propulser durablement, quelque chose qui soit concentré et durable et non solaire. Et ça veut dire du nucléaire. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les gens sont d'accord? Et quand je dis les gens, vous, peut-être plus en moyenne que le grand public général, la population terrestre. Mais est-ce qu'on est d'accord pour faire ça? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça, d'abord, en sécurité? Et est-ce que les gens sont d'accord pour qu'on fasse ça? Voilà, ça pose tout de suite ces questions-là. Accéder à de grandes ressources d'énergie dans l'espace, d'abord. Et après, si vous avez des gigawatts dans l'espace, alors c'est bon, hein. Je ne dis pas on fait ce qu'on veut, parce qu'il y a encore des étapes techniques à franchir. Attraper les astéroïdes, construire le vaisseau, mettre les humains en sécurité avec la nourriture, l'eau, l'air qu'il faut pour aller sur Mars. Mais si pour aller sur Mars en une semaine, les efforts, ce n'est pas les mêmes quand vous allez en 6 mois, évidemment. Les efforts pour les humains, la nourriture, tout ce qu'il faut, l'infrastructure pour les humains.
Peter?
I think we're kind of circling around a potential solution that nobody wants to say out loud. There's been talk about political will and politics and $100 billion, and let's face it, if we're talking about space travel, if we're talking about sending a couple of people to Mars as a publicity stunt, $100 billion might take a dent out of that. If we're talking about getting the human nest egg off the planet and onto something else, if you're looking at some kind of emigration policy, some way of, I mean, the title of this roundtable is terraforming. If you're talking of something on that scale, $100 billion is chicken feed. It's not going to do anything. And what we seem to be talking about here are fairly modest inner solar system, getting your toe in the water kind of projects. If what we have is $100 million, I suggest we take our lead from the space race when there was an enemy. When there was an enemy, all of a sudden, budget was no problem. We cannot, I would be extremely skeptical, barring some massive new technological breakthrough, which is always possible, but under current circumstances, I would be profoundly skeptical that $100 million would allow us to do anything that would approach a proper terraforming or actually result in a permanent human presence out of Earth and out of the Earth-lunar system. But what it might be able to do is fake an impending asteroid collision. Just to pick one example of a particular threat, if you could actually convince the world's governments that we had 5 years before a comet split this planet in half, people would stop worrying about whether or not they were making as much money as the next guy on the assembly line. People would stop worrying about keeping up with the Chinese, and people would do whatever the hell it took to at least, you know, maybe if not get themselves off, maybe at least have, you know, one chance in a million that their grandkid could win the lottery to get off the planet. Maybe what we need to be spending our money now on is lying to people to get them sufficiently motivated. Or perhaps maybe we could actually, hey, this might be even better. You would know the orbits of the various asteroids. Maybe what we could do is pull a Bruce Willis and actually alter the orbit of an asteroid so it actually will hit the Earth in 100 years. That would be much easier than actually, you know, buying off all the amateur astronomers who could look up at the sky and say, no, there isn't actually a comet coming. Once people actually realize that they are faced with imminent extinction and they believe that in their gut, I don't think we have to worry about budget. All we have to worry is technological breakthrough. And if you want to know the periods of time in which humanity has made the greatest technological breakthroughs, it's always been when its back has been up against the wall and during times of war.
Alors, faut-il provoquer notre propre extinction pour y échapper? Ça, c'est un peu dangereux. Bon, d'abord, je vous rassure, il n'y a aucune comète qui risque de casser en deux la Terre.
Ah bon?
Ça, Dommage. Mais par contre, il y en a qui peuvent faire des gars. Alors ça, c'est un débat très intéressant parce que je suis dans un groupe de travail à l'ONU qui travaille sur ces questions de déviation d'astéroïdes et de risque d'impact. Et effectivement, pour en tout cas des petits objets de quelques centaines de mètres de diamètre, on envisage une technique pour les dévier qui s'appelle le tracteur gravitationnel et qui consiste à mettre un satellite artificiel à proximité de l'astéroïde, à utiliser la masse du satellite pour attirer l'astéroïde vers lui et ainsi le dévier. Cette méthode, si elle marche, encore que, parce que c'est difficile de maintenir à une distance fixe un satellite d'un objet qui a une forme très irrégulière et qui est tout petit, mais si ça marche, c'est la méthode qui est la plus déterministe parce qu'elle se base simplement sur la loi d'attraction de Newton qu'on connaît bien. Et elle ne marche que pour des objets tout petits parce qu'on ne peut pas envoyer un satellite énorme qui a une masse suffisante pour attirer un objet de quelques kilomètres de diamètre. Or, les objets tout petits, de 100 mètres, ce sont des objets qui font des dégâts locaux. Et effectivement, on s'est posé la question dans le groupe de travail à l'ONU, le jour où on a ces techniques prêtes à mettre en œuvre pour dévier des astéroïdes, il faudra vraiment mettre un groupe de planning de ces missions et d'autorisation à l'ONU pour pas qu'un pays puisse l'utiliser pour dévier un objet qui fait que des dégâts régionaux vers une région. Par exemple, on a eu le cas...
Parce que finalement, les Américains pourraient dire on va menacer les Chinois avec un astéroïde, comme ça au moins ça règle le problème des Chinois, et en même temps,
exactement.
Ça motive les gens pour aller dans l'espace.
Mais c'est exactement le genre de discours.
No, I'm talking about uniting humanity to get off the planet, not turning it into like shooting rocks at each other.
Ouais, mais là on n'a pas de... Enfin,
why can't we all just get along?
C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que la seule manière d'aller plus loin, c'est malheureusement qu'on ait un risque pour l'humanité. On ne le fera pas avant l'échéance d'avoir un risque. Et ça, c'est un problème parce qu'on a différentes étapes technologiques, psychologiques à franchir avant d'être prêt vraiment. Parce que, comme vous le dites, 100 milliards de dollars, c'est rien pour faire une terraforma ailleurs. Avec 100 milliards de dollars, on envoie un être humain sur Mars, point barre. Donc, il faudra beaucoup plus de temps. Et s'il faut attendre que dans 5 ans, il y ait un gros astéroïde qui nous menace, en 5 ans, on est mort, hein, de toute façon.
Alors, préparer les gens psychologiquement, là, j'ai envie de dire que la science-fiction a sans doute un énorme rôle à jouer. On se souvient sans doute que partir sur la Lune, il y a pas mal d'auteurs américains, je pense en particulier à Einstein, typiquement, qui avait préparé les jeunes générations par ses romans jeunesse à l'idée qu'on puisse aller dans l'espace et quand on s'est lancé sur la Lune, les esprits étaient prêts et les ingénieurs étaient prêts. Est-ce que vous sentez, Claude, Peter, dans cet esprit-là de préparer les futures générations ou les générations actuelles, et comment on pourrait le faire d'ailleurs le monde a beaucoup changé depuis les années 60 pour contribuer justement à ce changement de mentalité?
It's a nice dream, but if we science fiction writers actually had any kind of an impact on real world policy, the world wouldn't be ruled essentially by climate change deniers. We already have. We're already being faced by essentially a threat. Certainly not to the biosphere. The biosphere will recover, but certainly a threat to our human civilization. And you know, who knows if the methane clath rates at the bottom of the ocean and the Siberian permafrost go off, we could end up in a kind of a Venus scenario, if you want to sort of look at the nightmare end of the spectrum. But people just don't seem to feel... our perception of reality seems to decay exponentially over time. Inconvenience tomorrow is somehow realer to us than catastrophe in 10 or 20 years. And I think that, to some extent, the inspirational effect that Star Trek and Heinlein and Asimov and all those folks, Clark, had on the space program, which is undeniable. I mean, half the people at NASA claim to have been, you know, inspired by Star Trek. I suspect that may have been more of a lucky coincidence, because we were already going to space. We were already scared of the Russians because they had kicked a football-sized object into orbit and it beeped over our heads every night. And we knew that we were going to lose this race if we didn't do something. So there was already the political will. And science fiction fed into that, basically sort of hung onto its back like a remora feeding off the scraps. But I don't think science fiction necessarily motivated it, or if it did, things have changed, because science fiction doesn't seem to have beyond the ability of you know, Star Trek communicators to inform modern-day flip cell phones. Science fiction doesn't seem to have any real impact on informing political action that I can see. I mean, the U.S. government since the 1980s has been recruiting science fiction writers like Jerry Pournelle and Larry Niven and so on. You may remember Larry Niven was actually here back in 2010 to talk about things like everything from you know, how to deal with alien invasion to the deep sequestration of radioactive waste over 1 million years and how we could possibly safely dispose of tons and tons of radioactive waste. But these are all essentially right-wing agendas and pretty right-wing science fiction writers who are essentially being recruited to support an extant political administration. I don't see science fiction changing a political viewpoint. I really, really would like to be proven wrong on this, but I see us heading for hell in a handbasket, and I don't see all the dystopian novels in the world just don't seem to be changing it. Somebody feel free to disagree. That's it. I've destroyed everybody's will to live.
Ah, si, si, je continue. Je pense pas que un auteur de science-fiction ou la science-fiction puisse changer le monde, mais par contre, la science-fiction peut peut-être changer l'esprit de quelques personnes qui, elles, auront une influence sur le monde. J'étais le mois dernier en discussion à Yverdon avec un astronaute suisse, Claude Nicollier, et bingo, qu'est-ce qui lui a donné envie d'aller dans l'espace? C'est la lecture de « On a marché sur la Lune ». Et d'objectif lune. Donc, très souvent, on rencontre des personnes qui ont eu envie d'aller dans l'espace ou qui ont envie de faire quelque chose d'après des lectures. Et s'il n'y a pas de volonté politique, il me semble qu'il peut y avoir une volonté civile. Il y a maintenant, bon, le X-Prize, il y a maintenant des sociétés qui proposent un voyage dans l'espace, et ce sont des sociétés privées. Alors, il se pourrait bien que, si ceci se développe, qu'à l'avenir, il y ait des sociétés suffisamment riches ou qui aient suffisamment de passion, de volonté pour proposer un voyage dans l'espace. Et à ce moment-là, l'émulation pour aller plus loin entre un gouvernement ou plusieurs gouvernements ensemble pourrait bien venir de la volonté de groupes privés qui eux veulent concrétiser leurs rêves et qui eux prennent les risques.
Ouais, moi je crois que c'est dur à mesurer l'effet de la science-fiction sur les décisions politiques, effectivement. Mais par contre, je pense que ça contribue au moins au rêve. Parce que quand les premiers hommes sont allés sur la Lune, c'était un rêve de l'humanité de sortir de la Terre. Et ça, ça a été fait. Et le malheur qu'a l'exploration spatiale maintenant, c'est que l'homme dans l'espace, ça ne fait plus rêver. Ça ne fait plus rêver, les gens n'en rêvent plus, on l'a fait une fois, et il manque le rêve. Alors on a des gens dans l'ISS qui font des choses, mais quand on en parle comme ça, ça ne fait pas rêver. Mais par contre, quand on y repense et qu'on le relie à la science-fiction, on dit « Oh là, on a réussi à aller au moins à vaincre la science-fiction parce qu'on a fait ce qui était dit dans la science-fiction. » Je prends un exemple. Une fois, j'avais donné une conférence grand public, c'était à Saint-Tropez, bon, il y avait beaucoup de monde, et on avait un lien avec l'ISS. Et l'ISS, donc c'est cette station qui orbite autour de la Terre, dans laquelle on envoie des astronautes qui restent des mois, et on fait des expériences en microgravité. Bon, c'est un gros machin, on en parle quelques fois, ça prend énormément d'argent. Et les gens, ça ne les fait pas rêver. Quand je parlais avec les gens avant cet événement, l'ISS, c'est beaucoup d'argent pour rien, qu'est-ce que font les hommes là-haut, à quoi sert l'homme dans l'espace? Et puis finalement, à un moment donné, on a eu un contact avec eux. Et alors le truc qui était très marrant, c'est qu'on a commencé à discuter avec eux, et la communication était beaucoup plus nette que la communication avec nos portables, parce qu'à Saint-Tropez, les portables partent mal. Et là, les gens étaient fascinés, parce qu'ils se sont dit « Waouh !» Et ils avaient l'impression de retrouver ce qu'on voyait dans les films de science-fiction à l'époque, Star Trek, etc. C'est-à-dire voir sur écran quelqu'un qui est dans un autre monde, finalement, et parler avec lui comme Spock et Kirk dans Star Trek, qui parlaient avec un écran interposé. Et j'ai vu immédiatement la réaction. Moi-même, j'ai fait la comparaison. J'ai dit « Oh !» On a fait ce qui était de la science-fiction. Donc ce côté challenge et rêve produit par la science-fiction, en tous les cas chez le peuple, alors ce n'est pas les décideurs, hein, mais comme vous dites, il suffit de un ou deux décideurs qui a cette réaction-là, peut, à mon avis, contribuer à se poser de nouveaux challenges. Donc moi, je crois un peu à ça.
Si on permet aussi aux gens de vivre le rêve plutôt que de le vivre par procuration en regardant une élite sélectionnée, entraînée pour aller dans l'espace, mais maintenant qu'on leur propose de le vivre à leur tour, peut-être qu'après, évidemment, il y aura des...
Ça, c'est exactement vrai. D'ailleurs, si vous avez vu les films des missions que j'ai montrées, c'est la mission Hayabusa de la JAXA qui a récolté un échantillon d'astéroïdes, qui en refait une autre. Et elle a fait ça pour faire participer les gens, parce que les Japonais, ils prennent ce genre de mission, pour eux, c'est comme les mangas, hein, tout le monde la vit, etc. Eh bien, les marqueurs qui sont posés sur l'astéroïde, vous pouviez vous inscrire, alors c'était malheureusement jusqu'au mois de fin septembre, pour avoir votre nom sur le marqueur. Ils ont récolté comme ça 700 000 noms de personnes qui sont... Et les gens, du coup, ils se sentent appartenir à cette mission. En plus, ces missions spatiales, même humaines, hein, c'est pas comme quand on met un télescope dans l'espace qui est figé, c'est des espèces de petits Indiana Jones qui vont vers des nouveaux mondes. Et quand les gens, ils ont leur nom dessus, alors évidemment, c'est symbolique, hein, parce qu'on a notre petit nom sur un petit truc gravé, mais quand même, ouais, tout petit, mais quand même, qui va être déposé à la surface, du coup, les gens se sentent participer à l'aventure et du coup, participer au rêve et pas le vivre par procuration, effectivement, ça, c'est important.
Alors, il y a l'idée de défi un peu fou, de choses qu'on n'a pas encore fait. On n'a pas encore colonisé une autre planète, typiquement. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de suffisamment neuf pour donner envie, pour mobiliser des gens, et comment on pourrait envisager de préparer ou d'inciter des gens à aller coloniser notre planète? Comment vous vendriez la chose si ça vous semble une idée pertinente?
Il n'y a pas besoin de motiver. Il y a une agence privée qui a dit, si on monte une mission vers Mars, allez simple, sans aucun espoir de retour, vous mourrez dans la mission ou sur Mars. Il y a eu des milliers de candidats qui se sont proposés. Donc il n'y a pas de problème, on trouvera des gens pour coloniser. Il y aura toujours des tas de gens pour aller coloniser, même si c'est one way et si vous risquez de mourir dans le voyage. Hein. Donc non, je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus, on trouvera des gens. Alors après, le problème, c'est est-ce que les critères de sélection habituels des astronautes, des agences spatiales seront respectés avec ces gens-là? Est-ce que ces gens tomberont dans les cases? Non, peut-être pas. Mais il y aura des candidats, sans aucun doute. Là, je voulais revenir sur ce que disait Peter Watt tout à l'heure sur le fait qu'il faudrait peut-être mentir aux gens, enfin leur dire qu'une catastrophe se prépare pour unifier tout le monde. Peut-être c'est une solution, mais ça pose une question, en fait, ça rebondit aussi sur ce que disait Claude, sur les échelles de temps. En fait, on voit que pour faire ça, ils ont colonisé l'espace et installé l'humanité, et pas juste 5 ou 6 personnes, mais des milliers de personnes durablement dans l'espace, que ce soit dans l'espace, dans une colonie ou sur une autre planète, sur la Lune, qui n'est pas une planète, mais enfin sur la Lune ou sur Mars, il faut du temps. Ça prend beaucoup de temps. Il y a une échelle de temps énorme parce qu'il faut beaucoup d'argent, parce qu'il y a des ruptures technologiques à franchir, il y a beaucoup de choses à faire et ça prend du temps simplement d'y aller, éventuellement. Donc il faut du temps. C'est des échelles de temps qui, en fait, sont beaucoup plus longues que les échelles humaines habituelles. L'échelle politique qui est 3 mois, l'échelle industrielle qui est 3 mois aussi, votre échelle à vous, qui est une journée quand c'est pour le quotidien, mais qui peut être l'année ou 2 ans quand c'est votre vie à vous, qui est une dizaine d'années, de temps en temps quand vous pensez à vos enfants et à leur avenir. Il faut être capable d'unifier des humains, beaucoup d'humains, autour d'un projet dont la durée est en gros l'ordre de la durée de vie humaine, disons 1 siècle. Voilà. Et comment on fait pour être capable de motiver beaucoup de gens pendant 1 siècle? Alors que typiquement, la motivation, les échelles de temps, c'est entre 3 mois et disons 1 an, l'échelle de temps courante. Comment on fait ça? Ça a été fait à au moins 2 reprises dans l'humanité, la construction des pyramides et la construction des cathédrales. Et on expliquait aux gens qu'en fait, leur vie terrestre, finalement, elle est probablement était difficile. D'ailleurs, prends un coup de fouet dans le dos, ça va te faire avancer. Et que ça s'arrangera sûrement après si ils font des choses bien sur Terre, ils auront le paradis, ils ont quelque chose. On a trouvé un argument, on peut discuter, disons un argument essentiellement spirituel, qui consiste à dire que vous travaillez pour quelque chose de beaucoup plus vaste que vous-même, beaucoup plus vaste que l'humanité, et vous êtes capable donc d'intégrer votre travail dans une échelle de temps qui transcende largement votre échelle de temps personnelle et l'échelle de temps des humains habituels. C'est quoi le nouveau moteur de cette échelle de temps qui transcendra l'échelle de temps humaine? Alors, on pourrait peut-être, voilà, ça pourrait être ça, dire, bah, écoutez, dans 5 ans, tout est fini, donc maintenant, il faut se bouger. Ça pourrait être, je ne sais quoi, c'est à trouver, mais je pense que la question de ce temps et de la motivation que beaucoup d'humains pourraient mettre à se mettre à travailler ensemble, indépendamment de tous les détails qui font que l'humanité se tape plutôt sur la figure que de travailler ensemble, et à une échelle de temps qui est donc de l'ordre de grandeur de l'échelle de temps humaine. Si on regarde les plus grands projets techniques
actuellement réalisés par l'humanité. Il y aurait le tunnel sous la Manche, le CERN, les missions lunaires, tout ça, c'est 15 ans. Et c'est presque en limite de rupture, ça veut dire que c'est tellement long à gérer, tellement difficile à gérer que ça casse à un moment donné, ça s'arrête à un moment donné. Comment motiver des jeunes chercheurs à travailler à un projet dont ils ne verront pas la fin? Ils seront morts avant que le projet aboutisse. Voilà une question. Et quand je parle des jeunes chercheurs, c'est pour les gens qui vont réfléchir aux moyens techniques de résoudre des problèmes. Mais comment motivez-vous, comment vous motivez à participer à une entreprise à laquelle dont vous ne verrez pas l'aboutissement? Par exemple, comment motiver la population humaine à réagir de manière significative au changement climatique qui s'annonce par l'action précisément de la population humaine en question? Ça repose des questions dont avait parlé Peter. Là, c'est un problème très direct. On ne ressent pas de la même façon un gratouillement gênant dans une minute et un gros emmerdement dans 10 ans. Voilà, il y en a un qu'on oublie, et le gratouillement là qui vous énerve, ça vous énerve tout de suite et vous cherchez une solution maintenant. Voilà, et donc ça c'est vraiment une question d'échelle de temps et de comment motiver les gens sur des échelles de temps qui transcendent l'échelle de temps humaine.
Alors moi je suis plutôt optimiste par rapport à ça, parce que je pense que le problème c'est comment nous motiver quand il faut faire des efforts. Ça oui, on le voit pour le réchauffement climatique. Beaucoup se disent, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse attention à couper mon eau quand je me douche? Pourquoi? Parce que c'est des efforts. Par contre, pour tout ce qui est aventure, alors certes, ça ne s'extrapole pas à l'ensemble de l'humanité, mais je pense qu'on aura toujours quelques fous ou des téméraires qui sont prêts à ça. Et on a un bon exemple actuellement, c'est qu'en Europe, nous avons une agence spatiale, l'Agence spatiale européenne, qui fait des appels à propositions pour des missions. Et notamment, là récemment, il y a eu l'appel à propositions pour des missions de classe 1 milliard d'euros, pour départ en 2030. Donc on est en 2013 et proposer des missions pour 2030. 2030, ça veut dire, parce que comme c'est des missions très larges, on peut proposer des missions qui vont aller vers Saturne, Uranus même, il y a une mission qui est proposée pour Uranus, ça veut dire qu'il faut 10 ans supplémentaires. Donc la mission, elle n'arrive pas avant 2040, voire 2050. 2050, 2013, ça fait quand même 37 ans. Donc ça veut dire que ceux qui proposent maintenant, la plupart seront morts d'ailleurs quand la mission arrivera au niveau de la cible. Ah ben, il y a eu énormément de gens qui ont répondu. Et il y a une compétition énorme pour proposer ces missions. Les gens se battent parce que d'abord, il y a plusieurs thèmes qui sont proposés. Donc toutes les communautés se battent entre elles pour réussir à être celle qui va être choisie. Et énormément de gens, alors aussi ce qui est bizarre, mais des gens près de la retraite, on se demande quelle est la motivation. Et aussi des jeunes, sachant que en plus, c'est même pas du sûr. C'est-à-dire que là, encore, quand on se bat pour un projet dont on sait que, OK, c'est décidé, on y va, même si c'est dans 40 ans, déjà, on est encore plus motivé. Mais même sans être sûr, on se bat. Donc, je pense que s'il s'agit de projets avec un challenge, indépendamment du but final, hein, c'est-à-dire que, par exemple, c'est pour s'échapper de la Terre, je pense qu'on aura toujours des gens, et heureusement, et des jeunes qui aiment se poser des nouveaux défis parce que ça les excite, parce que ça les enthousiasme, parce qu'ils ont cette curiosité, cette quête de la connaissance. Et ça, de ce point de vue-là, je suis...
Mais je suis d'accord, parce que moi-même, d'ailleurs, j'étais avec le CNES. Donc, de ce point de vue-là, je suis d'accord.
Je sais que je parle à un convaincu, mais oui, on parle
exactement.
Au public.
Mais c'est encore différent de trouver des motivés individuels en nombre petit, disons, même si c'est des milliers, et de trouver 6 milliards d'humains capables de travailler dans la même direction avec cette motivation de challenge commune à tous. Quoi,
je suis d'accord, mais il faut d'abord commencer, de toute façon c'est toujours par des élèves, il faut d'abord commencer petit et puis entraîner des gens. Je veux dire, Gandhi, il était seul au départ. Et il a entraîné, parfois il suffit d'un homme pour arriver à provoquer l'enthousiasme de l'humanité. Alors évidemment, il faut trouver cet homme-là.
On n'a pas besoin d'avoir l'adhésion de tout le monde.
Non.
Mais... il me semble qu'une fois que le projet est amorcé, il va falloir embaucher des gens dans diverses disciplines. Ça permet une relance économique et les gens vont simplement participer au projet parce qu'ils ont les compétences pour et que ça leur fait un emploi. On n'a pas besoin d'avoir l'assentiment des gens. Peut-être qu'ils ne croient pas que le projet aboutira, mais du moment qu'on les fait travailler là-dessus, bon, ben c'est très bien.
Mais c'est vrai que dans l'économie, enfin, dans la société actuelle, où on privilégie quand même le court terme, arriver à fédérer même un groupe humain pour un projet qui va durer là des décennies, c'est vrai que ça reste, c'est compliqué. Ça, je reconnais.
Puis un processus, c'est prendre du temps. Il est important parce que ces budgets, ils sont votés pas d'un coup pour les 30 prochaines années. Ils sont votés par petits paquets. Il manque un paquet à un moment donné. Crac, ça s'arrête, ça repart. Ça fait voilà. C'est compliqué, voilà. Il faut la science fondamentale, par exemple, mais aussi ce genre de projection dans le futur nécessite d'avoir une motivation régulière, permanente, sur une grande période de temps, de toute façon.
Ouais.
Et toujours la même, c'est pas des oscillations, c'est vraiment, il faut que ça soit continu et régulier.
Voilà. What you're basically saying is that we can't count on political administrations, at least not democratic political administrations, to do this. It has to be either totalitarian political administrations or Kickstarter.
Oui, ben ça c'est le, ou alors il faut changer de mode. Par exemple, le problème qu'a la NASA, c'est que le budget de la NASA, il dépend directement du président de la République. L'administrateur de la NASA est le seul administrateur d'une agence fédérale dont le lien direct, ce n'est pas le Congrès, c'est le président. Et du coup, ben, le président, son budget, il est annuel. Et c'est pour ça qu'il y a des missions qui sont en développement et qui sont coupées au dernier moment, et il y a une incertitude. En Europe, alors en même temps, on a la lourdeur administrative d'avoir à gérer 15 pays en même temps dans une agence, mais ils ont créé un système, au moins pour le programme scientifique, qui est obligatoire. Donc ça veut dire que le budget, il est voté sur 5 ans, et pendant ces 5 ans, le budget, il vient. Et je pense que pour des projets comme ça, c'est vrai, il faudrait que ça soit non pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle d'une organisation mondiale. Et à l'échelle d'une organisation mondiale, qu'il y ait un budget qui soit alloué, indépendamment du contexte économique d'ailleurs, pour maintenir cette continuité, aboutir au projet. Ça, c'est compliqué.
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi autrement, hein, savoir ouvrir complètement le marché, c'est-à-dire dire, eh bien voilà, on a cet objectif-là, pour cet objectif-là, on est prêt à mettre tant de milliards, et puis on propose aux industriels, à tous ceux qui ont envie et qui sont suffisamment sérieux pour se lancer dans ce type de projet, de se lancer en disant, si vous y arrivez, les milliards sont pour vous, mais sinon, j'ai envie de dire, tant pis.
Ben, c'est ça ce qu'ont fait les Américains. Les Américains ont fait... Alors, c'est pas dans ce sens-là, mais les Américains, vous savez, Google, James Cameron, qui a fait le Titanic, ont créé une industrie qui s'appelle Planetary Resources. C'est d'ailleurs un ancien de la NASA, Chris Lewicki, qui travaillait sur les petits robots qui sont allés sur Mars, qui a créé cette entreprise. Et ils mettent des milliards sur la table, hein, c'est les gens de Google, etc., pour justement... Alors, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça paraît un peu prématuré, mais au moins, ils se lancent le défi, aller voir des astéroïdes, voir quelles sont les ressources possibles et voir si on peut les exploiter. Et ça, c'est ça qui a fait que la NASA s'est dit, oula, les industries, le privé s'y met, c'est bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour être complémentaire ? Le problème, c'est, en Europe, on a un petit peu un problème culturel là-dessus, c'est que dès que le privé s'en mêle, on est un peu plus gêné. Et ça, c'est aussi quelque chose dont je pense qu'il faut arriver à franchir ces barrières-là, parce que je ne crois pas que les États auront les moyens pour ces grands projets-là de faire ça avec l'argent du contribuable. Il faudra accepter que des industries qui, peut-être, au final, pensent à du profit, mais au moins qu'elles aident dans la course. Et ça, aux États-Unis, c'est vrai que c'est accepté. Ça a choqué personne que des industriels se projettent sur des projets qui sont d'abord scientifiques, et puis peut-être après à des fins économiques. Mais de toute façon, il faudra les deux. Ça, c'est sûr qu'il faudra les deux.
En ce qui concerne une terraformation, il faudra aussi montrer que c'est possible, hein, pour susciter suffisamment d'émulation.
Oui, d'ailleurs, je voulais revenir à un tout petit truc, à ce qu'on a dit au départ, c'est qu'il faudra adapter l'homme... Enfin, il ne faut pas que l'environnement s'adapte à l'homme, mais l'homme s'adapte à l'environnement. Et ça, ça me paraît super compliqué. Et justement, un des problèmes qu'on aura à résoudre, à mon avis, c'est d'arrêter d'être des pollueurs. Parce que l'être humain, c'est d'ailleurs toute bactérie vivante, c'est des vrais pollueurs. On fait des déchets, et pour l'instant, ce qu'on fait quand on va sur une autre planète ou un autre satellite, c'est qu'on envoie nos déchets là-bas. Hein. Hier, on montrait la première photo de la mission Apollo, c'était un sac de poubelle déposé sur la Lune. Et ça, il faudra arriver à résoudre ça. Comment aller sur d'autres terres, provoquer un environnement favorable, mais sans continuer à polluer, parce que sinon on va simplement d'abord provoquer de la terre, enfin en faire de la terre un vrai déchet, et puis on risque de faire la même chose sur Mars, peut-être plus tard, le jour où on ira, on peut rêver sur les satellites de Jupiter ou encore plus loin où il y a de l'eau, mais ça va être aussi un vrai problème, c'est comment ne pas polluer le reste, parce que dès qu'on met un organisme vivant quelque part, il en laisse des traces partout.
Il nous reste très peu de temps. J'aimerais bien laisser la parole un tout petit peu à la salle. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle à adresser à nos invités ? Est-ce qu'il y a un micro aussi ?
Oui. Bonjour, Philippe. Autre monde aussi, je viens de l'Orne. Oui.
Merci.
J'ai vu que ça existe dans l'art, mais est-ce qu'il y a des mécénats qui existent pour ce genre de situation? Vous avez parlé des fonds nécessaires avec des industriels, des grands groupes, mais est-ce qu'il y a un mécénat, en fait, qui s'implique au niveau de l'espace?
Alors, aux États-Unis, les fonds privés sont totalement acceptés. Et d'ailleurs, la biosphère qui avait été construite dans l'Arizona pour voir si les hommes pouvaient survivre, c'était en fait un privé qui avait fait ça. Et la NASA est tout à fait ouverte aux fonds privés à partager. En Europe, justement, on a ce problème culturel qui est que pour l'instant, c'est très difficile de faire rentrer dans un budget d'une agence nationale ou européenne des fonds privés. Et j'ai eu l'exemple parce qu'on m'a offert, un mécène avait offert une contribution pour une mission que je porte. On n'a jamais réussi à trouver une ligne budgétaire pour la faire rentrer. Donc ça reste un peu difficile. À l'Observatoire de Nice, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, par contre, si vous allez sur la page web de cet observatoire, vous aurez une boîte avec mécénat. Parce que là, on a trouvé un moyen. Donc, ceux qui veulent donner... sachez que la coupole a été faite par Eiffel. Je fais un peu de pub. Ceux qui veulent donner un peu, maintenant, c'est possible. Mais c'est en train, à peine, de venir en France, en tout cas. Je ne sais pas dans les autres pays, mais il me semble que c'est aussi difficile de ce côté de l'Atlantique. Mais je pense que ça serait une très, très bonne idée parce qu'on le fait... Il y a des fondations dans les industries pour la musique, etc. Donc, pourquoi pas pour la science, hein.
Il y a aussi le crowdfunding, maintenant, qui marche très bien. Enfin, pour certains projets, peut-être pas aussi ambitieux. Qui marche des fois au-delà des espoirs des gens qui sont demandeurs, où cette fois-ci c'est le public qui donne $1, $10, $100, $1,000, enfin ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, et ça finit par accumuler des sommes qui dépassent parfois la somme demandée initialement.
Oui, c'est vrai.
Donc ça, peut-être ce serait une possibilité. Enfin là, il faut du crowdfunding velu, si j'ose dire. Il faut beaucoup de milliards, là.
Une autre question, je suis le nom devant.
Bonjour. Je voulais simplement revenir sur la question de l'adaptation de l'être humain à son environnement. J'imagine que même si on parvenait à changer nos habitudes, notamment à cesser d'être des pollueurs incorrigibles, j'imagine que si on parvenait à s'adapter, on parlerait de générations, d'années d'adaptation, le temps qu'on change d'une part nos habitudes, nos techniques, peut-être notre organisme, comme l'a dit Roland. Donc j'imagine que même si on parvenait à tout mettre en place, il y aurait des générations entières d'êtres humains et de nouveaux êtres humains qui s'écouleraient avant qu'on puisse monter une éventuelle société à peu près stable sur ces planètes ou sur ces astéroïdes.
Oui, c'est très probable. Mais alors, des générations, ça fait plusieurs fois 30 ans. La terraformation, c'est plusieurs fois 100 ans. Donc bon. Et puis bon, en fait, ces humains-là, évidemment... Ça pose aussi des tas de problèmes éthiques, hein, de toute façon, parce que ces humains que vous avez transformés, ne sont entre guillemets que des étapes intermédiaires vers l'humanité future que vous tentez d'obtenir, qui va être adaptée au nouvel environnement. Donc voilà, ça pose évidemment des tas de questions éthiques. Hein. Mais la même chose, hein, sur les aspects pollution, est-ce qu'on en a le droit? C'est déjà très bien posé dans le roman de Kim Stanley Robinson sur la trilogie martienne, Mars la verte, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. Est-ce qu'on a le droit de transformer une planète pour la rendre habitable pour les humains? Après tout, Mars, c'est la moitié de la surface de Mars, c'est 4,5 milliards d'années d'âge, et donc c'est c'est pas un palimpseste géologique comme la Terre. Hein. La Terre, il faut gratter un peu et il y a des couches, et les plus anciennes roches qui affleurent à la surface, les plus anciennes roches qui affleurent à la surface terrestre, 3,8 milliards d'années seulement. Mars, c'est la moitié de la surface de Mars qui est à 4,5 milliards d'années, qui a l'âge du système solaire. Donc un géologue, vous lâchez un géologue sur Mars, il bondit tous les mètres, il y a un truc qui se passe. Donc ça veut dire, est-ce qu'on
a
le droit...
On attend le géologue qui bondit sur Mars.
Oui,
hein.
On a le temps. Est-ce qu'on a le droit de piétiner glorieusement cette surface-là, qui est finalement un livre d'histoire du système solaire, de Mars bien sûr, mais aussi du coup du système solaire, pour installer je ne sais quoi. Bon, ça pose cette question-là aussi de la transformation d'une planète. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est autorisé, entre guillemets, de faire ça?
De toute façon, l'homme, il s'adaptera. C'est-à-dire, quand on dit qu'on adapte l'environnement à nous-mêmes, dans ces conditions-là, l'homme, nécessairement, il s'adapte. Si Jupiter était une planète solide, avec 300 fois la masse de la Terre, je pense que si j'y vais, si je fais un enfant là-bas, bon, peut-être qu'il sera un peu comme moi, mais le prochain, il aura intérêt à être tout petit parce que pour pouvoir pomper le sang jusqu'au cerveau, on ne faudra pas qu'on fasse 2 mètres. Donc même notre taille et notre morphologie dépend des conditions d'attraction, de gravité, enfin de l'environnement dans lequel on est. Donc ça marche aussi dans les deux sens. Nécessairement, on perturbe un peu l'environnement quand on y est. Et d'ailleurs, la Terre aussi, hein, on voit la façon dont l'oxygène évolue, etc., dépend aussi du fait qu'il y a eu des êtres vivants. Mais inversement, à un moment donné, si on vient d'une autre planète dont notre génétique a été, dans laquelle notre génétique a été construite, celle-ci va devoir aussi s'adapter à l'environnement qu'elle va trouver, qui est complètement différent. Ça serait intéressant de voir, si on peuplait Mars, qui est beaucoup moins massif que la Terre, dans quelques générations, si on ne ferait pas tous 3 ou 4 mètres de haut, ça serait intéressant de voir ça. Là, c'est de la science-fiction qui peut parler de ça, déjà.
Je laisserai la parole. Le dernier mot, on doit s'arrêter là parce qu'on a déjà un petit peu dépassé l'heure. Je laisserai le dernier mot à Peter. Juste avant, vous dire que tous nos invités seront tout de suite après en signature en librairie. Donc, n'hésitez pas à prolonger la discussion avec eux auprès d'un bon livre, tout simplement. Peter.
I don't have much more to add, except to say that perhaps we don't have to wait a few generations. If we're actually talking about engineering our offspring, yes, there are ethical concerns about bringing something that looks fundamentally different than we are in the space of a single generation, essentially speciating overnight. But then again, there's an ethical decision involved in reproduction in the first place. We may not have to wait. Maybe the best thing to do is to take an R-selecting strategy whereby we just basically create so many different variants that might fit into a particular society, like the same way that a herring lays a million eggs expecting that random chance will let 2 of them survive to adulthood. Again, an iffy ethical proposition. But if you want to get off of this planet and onto another one really fast, perhaps an R-selection strategy like that is the way to go, and it doesn't have to take numerous generations. It just has to take an awful lot of variation within one generation, and we are technically within the within grasping range of being able to engineer that kind of variation.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.